Bonjour Père Daniel Brier et bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de Notre-Dame des Dons. Avant de commencer à parler du lieu, est-ce que vous pourriez juste vous présenter brièvement pour nos auditeurs?
Oui, bien écoutez, le chanoine Daniel Brier, donc je suis membre du chapitre des chanoines de Notre-Dame des Dons, une vénérable institution qui est là depuis officiellement 980. Et dont les prémices remontent beaucoup plus haut si on pense à ces prêtres qui entouraient l'évêque dans son office de prière, de gouvernement, d'administration, de sanctification surtout. Voilà, donc je suis ici le recteur et j'assure l'accueil. La qualité de la liturgie autant que possible et surtout un grand mystère d'écoute puisque Notre-Dame des Dons est la paroisse depuis au moins le XIVe siècle.
Alors nous sommes, Père, nous sommes à côté du Palais des Papes, n'est-ce pas?
Oui, c'est exact. Si vous voulez, d'ailleurs, si le Palais des Papes existe à cet endroit, c'est en raison de Notre-Dame des Dons, hein, la cathédrale des évêques d'Avignon, puis la métropole des archevêques d'Avignon depuis 1475. Et comme le deuxième pape d'Avignon, Jean XXII, qui a été évêque de Fréjus et évêque d'Avignon, a voulu se fixer dans son ancienne cité épiscopale, il a utilisé le palais épiscopal, qui est devenu petit à petit le palais... l'embryon des palais pontificaux que nous connaissons aujourd'hui et qui amène à peu près plus de 600 000 visiteurs par an.
Oui, c'est considérable.
Ah, c'est considérable. C'est un sanctuaire. C'est d'abord une église mère. Ça a été une cathédrale. C'est une métropole. C'est une basilique. En fait, le nom lui-même est révélateur, alors que cette église est toute petite, mais vraiment, c'est une toute petite, une des plus petites cathédrales de France, bien l'archibasilique métropolitaine Notre-Dame-des-Dons d'Avignon. Alors, à travers ce titre très pompeux, on essaye d'exprimer, l'histoire a essayé d'exprimer, si vous voulez, la richesse historique, patrimoniale, mais d'abord et avant tout spirituelle de ce haut lieu de l'église.
Alors Père, si on revient un petit peu sur l'histoire qui a été peut-être assez mouvementée à certaines époques.
Oui.
Comment Notre-Dame des Dons finalement est venue à s'édifier au cours des âges, à être de plus en plus connue. Comment ça s'est passé?
Écoutez, c'est une très longue histoire puisque on a trouvé des stèles anthropomorphes de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ sur le site du Rocher des Dons. Le Rocher des Dons a attiré toujours l'homme en raison de sa situation qui assure, je dirais, une grande salubrité par rapport aux inondations du Rhône, par rapport aussi aux invasions. Avignon est sur un couloir d'invasion le long du Rhône. On a l'attestation d'un temple à Hercule et d'un ensemble très important à la période antique. Et le christianisme apparaît officiellement vers 430 avec l'évêque Nectaire. On sait qu'il y avait, à l'emplacement de Notre-Dame-des-Dons, un ensemble épiscopal, hein, avec peut-être, suivant le siècle, une église à double nom, double nef, on ne sait pas très bien. En tout cas, il y avait l'église mère, l'ecclésia maior. Ensuite, l'église Saint-Étienne, qui prendra le titre paroissial et qui sera transférée au centre-ville un petit peu plus tard. En tout cas, les papes, notamment Jean XXII, va confier au chapitre de suivre un petit peu toute la vie à Notre-Dame des Dons. Alors, on a une première construction au 5e siècle. On a gardé d'ailleurs un chrisme sculpté du 6e siècle qui a été rentré dans la basilique pour raison de protection. Il était à l'extérieur. Vous avez une reconstruction vers le 7e siècle avec toute la tradition autour de Sainte-Agricole, qui a été formée à Lérins, et puis une destruction par les Sarrasins au 9e, 10e siècle, reconstruction très importante au début du 12e siècle, avec un accroissement de la puissance spirituelle et politique de l'évêque, l'émergence aussi du chapitre. Et donc on a un édifice extrêmement soigné qui est construit en trois périodes. Une première période, on construit l'abside, la nef. Une deuxième période, on ajoute le lanternon, qui est un chef-d'œuvre architectural dans les années 1160. Et vers 1180 à peu près, on ajoute à la façade, sous le clocher, on ajoute le porche actuel, qui est un petit bijou d'art roman, utilisant peut-être d'ailleurs des pierres d'un édifice antique pour la construction romane. Après le XIIe siècle, donc la grande période sera le XIVe siècle, avec l'arrivée des papes. Donc Clément V vient dans le comtat qui était possession de l'Église depuis le XIIIe siècle. La situation politique en Italie était tellement catastrophique que le pape ne pouvait pas assumer sa mission, sa responsabilité. Donc quand Clément V arrive dans le comtat vénitien, notamment à Malocène et Carpentras, les papes ne sont plus à Rome depuis à peu près entre 70 ans et 100 ans. Il est même probable que certains papes du XIIIe siècle n'aient jamais mis les pieds à Rome, c'est ce que l'on dit. En attendant, si vous voulez, c'est le deuxième pape, Jean XXII, Jacques d'Eusse, comme nous le disions au début, qui est un ancien évêque d'Avignon, qui a été élu pape, et on l'a élu parce qu'il était très âgé, mais c'est lui qui restera 18 ans, et qui commencera à mettre en place, si vous voulez, une politique de réforme très forte sur le plan administratif et déjà sur le plan canonique. En tout cas, l'œuvre de Jean XXII assurera l'œuvre de ses successeurs. Il y aura Jean XXII est enterré à Notre-Dame-des-Noms. C'est lui qui commence à faire percer les murs périmétraux de son église cathédrale pour y établir des chapelles, et ainsi de suite tout au long des siècles jusqu'à nos jours. Le problème de cette église, c'est qu'elle est toute petite, et donc il faut vraiment l'agrandir. Clément VI parera l'église d'un trésor, un très beau trésor avec des tabernacles et tout. Et au départ des papes, eh bien, la métropole va être incendiée lors des guerres du schisme, notamment sous Benoît XIII, et le clocher sera aboli. Mais chose très importante au Moyen-Âge, la vie religieuse ou la vie communale est rythmée par les cloches, et à peu près en 10 ans, 15 ans, on élève à nouveau un clocher avec une énorme cloche restée célèbre jusqu'à la Révolution française, la chasserie Baud. Au XVe, XVIe siècle, il y a une grande restauration de Notre-Dame-des-Dons. On modifie l'intérieur de l'édifice roman, qui a été déjà touché par l'adjonction de chapelles funéraires, notamment par les papes ou par les cardinaux ou par les grands personnages de l'Église. Au XVIe siècle, il y a une volonté d'unifier un petit peu la nef, et on construit des arcades France de Panier qui sont d'ailleurs d'une finesse remarquable. Et puis, les plus grands artistes vont travailler là. C'est en 1475 que la cathédrale devient métropole, puisque l'évêque d'Avignon, successeur d'Alain de Coëtivi, qui est enterré à Rome, devient archevêque. Vous le connaissez, c'est Giuliano della Rovere, c'est le futur pape Jules II, Et c'est son oncle, Sixte IV, qui va ériger pour lui le siège d'Avignon en archevêché. Julien de la Rovère créera la maîtrise à Notre-Dame-des-Dons, fera des dons magnifiques ou curieux, comme des œufs d'autruche pour orner le lustre au-dessus de l'autel. Au fin du XVIe, il y a une grande campagne d'embellissement de la métropole avec l'appel à Simon de Chalon, qui est un peintre très célèbre chez nous. Mais c'est surtout au XVIIe siècle, en 1671, on détruit l'abside romane, on en récupère les pierres, on reconstruit un chœur beaucoup plus vaste, dans l'esprit roman, ce qui est tout à fait curieux. On a l'impression d'un édifice d'une grande cohérence. En fait, l'abside et le chœur ont été reconstruits en 1671. La raison est, le développement du culte, notamment à la suite du Concile de Trente, avec un déploiement liturgique extraordinaire. En 1672, les chanoines rénovent complètement la métropole en gardant l'édifice roman, puisqu'il y a une très belle légende qui dit que c'est le Seigneur lui-même qui a consacré cet édifice en l'honneur de sa mère, et qui marquera d'ailleurs jusqu'à la Révolution française, d'une manière tout à fait spécifique, la liturgie du jour de la dédicace à Notre-Dame-des-Dents. C'était le seul jour où l'archevêque ne célébrait pas la messe sur le maître-autel, par respect pour cette tradition qui disait que le Christ lui-même avait consacré l'autel et l'église. En 1672, donc, les chanoines embellissent et modernisent leur église. Ils créent, sur des plans de Delbene et réalisés par le grand maître Perru, ils créent la grande galerie baroque, qui est un chef-d'œuvre non seulement d'intégration dans un édifice romain, ça c'est assez remarquable, mais en plus d'une finesse et d'une grande utilité pour l'époque. En 1677, on construit une chapelle pour Monseigneur de Libelli, l'archevêque, qui était originaire de Rome. Et là, on fait une chapelle à l'italienne, qui était citée comme étant un exemple de perfection dans la construction et la décoration. Malgré la Révolution, bon, ce qu'il en reste laisse supposer de l'état magnifique de cette chapelle à l'origine. En 1680, c'est la petite chapelle Notre-Dame de Tout-Pouvoir qui est construite, et en 1683, on réalise sur les plans de Pierre Mignard des boiseries magnifiques en bois doré dans le chœur, représentant les portraits en méplat des papes d'Avignon. Et que dire, les Mignards, les Parocelles, les Levieux vont intervenir pour décorer cette église à la demande des archevêques, des chanoines du chapitre, des membres des confréries ou des corporations qui venaient nombreux prier à Notre-Dame-des-Dons. Voilà. Et puis la Révolution va arriver, va saccager tout cela. L'église sera tellement saccagée qu'on ne la réouvrira qu'en 1819. Et à partir de là, c'est une renaissance où les archevêques comme Monseigneur Moudeau, Monseigneur Dupont vont recourir aux plus grands artistes de leur époque. Je pense à Eugène de Veria, je pense à James Pradier ou des sculpteurs de chez nous comme Cournot, Poitevin, pour décorer à nouveau cette église et lui rendre un peu de sa dignité perdue depuis la Révolution. Alors, au XXe siècle, il va y avoir un doyen du chapitre, Monseigneur Reyn, qui, pendant 27 ans, va, en lien avec les monuments historiques, et le diocèse évidemment, contribuer à remettre cette église en état. Par exemple, il y avait 9 cloches, on en a maintenant 35, ce qui fait un carillon quasi complet. Il y a création du trésor, différents aménagements, notamment la grande sacristie. Voilà. Alors, tout ça pour dire que cet édifice qui est classé au patrimoine mondial avec le Palais des Papes, le pont Saint-Bénézé, le Petit Palais, cet édifice est particulièrement précieux sur le plan du patrimoine spirituel, je vais en dire un mot, et du patrimoine architectural, pictural, toutes les formes d'art qui se mettent au service de Dieu, hein, au service de Dieu.
Oui, Père. Bien sûr, une très très grande richesse due à son histoire et au fait que ça a été un centre, et ça reste un centre très important de la vie spirituelle et catholique.
Exactement. Si vous voulez, le Palais des Papes reçoit plus de 600 000 visiteurs. Nous en avons ici à Notre-Dame-des-Dents tout autant, d'autant plus que, si vous voulez, qu'il n'y a pas de droit d'entrée, évidemment, c'est un lieu de prière, et nous cessons sur le plan pastoral de le rappeler. Hein. C'est un lieu de prière, c'est un lieu de sanctification. Alors donc, on se doit d'être très très présent. Il y a bien sûr c'est l'église de Saint, hein, c'est l'église de l'archevêque d'Avignon, il y officie pontificalement. C'est l'église du chapitre. Le chapitre en est très fier, hein, de cette église. Elle fait tout pour l'embellir et la bien tenir. C'est un haut lieu spirituel. Saint-Louis, Saint-François-de-Sales, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Catherine de Sienne, Saint-Jean-Bosco sont venus y prier ou y dire la messe. Je ne parle pas des papes d'Avignon, les deux qui sont considérés comme saints. Je pense à Benoît XII dans l'ordre cistercien et bien sûr Urbain V qui figure au calendrier de l'Église catholique depuis Pie IX. Vous pensez que Benoît Labre dormit plusieurs jours sous le porche de Notre-Dame-des-Dents, que des grandes fêtes ont été étendues officiellement au monde catholique par les papes d'Avignon. La Trinité, la Présentation, vous avez la Visitation, vous avez des dogmes qui ont été précisés, même s'ils ont été l'objet, je fais allusion à Jean 22, d'une querelle sur la vision béatifique. Hein, que se passe-t-il lorsque nous mourons? Est-ce que nous ressuscitons tout de suite? Est-ce que nous attendons? Donc, si vous voulez, c'est un haut lieu. C'est un haut lieu pour l'Église, vraiment, hein, vraiment. Et puis, il faut beaucoup insister, c'est un sanctuaire qui a tellement vu, qui a été le cadre de tellement de prières, si vous voulez, qui a des grâces tout à fait particulières qui sont obtenues ici en priant la Vierge, dont c'est le joyau. Voilà.
Oui, Père.
Je veux garder le meilleur, là.
Oui, parce que, Père, c'est aussi, bien sûr, évidemment, un sanctuaire marial.
Et, exactement.
Et vous parliez des grâces à l'instant. Est-ce que vous avez, par exemple, au jour d'aujourd'hui, quels sont des exemples de témoignages ou de conversions, de grâces particulières?
Donc, pour comprendre les grâces qui sont accordées et qui, moi, me bouleversent, pourtant, je commence à voir un petit peu l'expérience de la vie, mais je suis toujours bouleversé parce que je vois la Sainte Vierge en action. C'est son Fils qui lui confie. Hein. Si vous voulez, il faut penser que cette église est dédiée à Notre-Dame. Le titre apparaît au Xe siècle, hein, tel qu'il est. Notre-Dame des Dons, on a pensé que c'était Notre-Dame de la Maison, des Domo Episcopali. Il semblerait plutôt que ce soit Notre-Dame de Dons, Notre-Dame sur un lieu élevé, Notre-Dame qui est sur la hauteur, hein, en tout cas spirituellement, qui nous fait prendre la hauteur même de Dieu. Hein. Et puis, on l'appelle Notre-Dame de tout pouvoir depuis le XIVe siècle, Notre-Dame de consolation depuis le XIIe siècle, Notre-Dame la Brune, qui était vraisemblablement l'image primitive de la Vierge vénérée à Notre-Dame-des-Dents. Et puis, les visitandines nous ont donné une Vierge miraculeuse qui s'appelle Notre-Dame de Prends-Secours. Donc, on pourrait faire une litanie de la Sainte Vierge rien qu'à Notre-Dame-des-Dents. Les grâces qui sont accordées, beaucoup de musulmans viennent visiter Notre-Dame-des-Dents. Et Notre-Dame-des-Dents, je l'appelle la Grande Pêcheuse. non pas pour les péchés, mais celle qui ramène de belles prises à son fils. Combien de fois j'ai vu des familles musulmanes venir déposer des cierges devant Notre-Dame de Tout-Pouvoir, ou même écrire en arabe le nom de leurs enfants sur les petits feuillets de prière. J'ai été témoin de l'action de grâce de familles venant dire merci à la Sainte Vierge pour des guérisons obtenues. Nous avons eu un couple qui était séparé, qui est venu se réconcilier à Notre-Dame-des-Don, devant l'autel de la Sainte Vierge, et qui a participé quelque temps après à une liturgie ensemble. Le couple était reconcilié. Et plein de choses comme cela. Et puis je vois bien qu'il y a cette grâce. Je pourrais multiplier les exemples. D'ailleurs, j'en éprouve une émotion quand j'en parle, parce que je vois la grâce à l'œuvre. Mais si vous voulez, il y a quand même une grâce diffuse. Je vois qu'en recevant les groupes d'enfants, je reçois aussi des groupes de quartier. Donc, voyez ce que ça signifie. C'est pas toujours facile. Ça n'est pas du tout la même culture. Mais dès que les jeunes, les groupes, les enfants viennent dans ce lieu, il y a quelque chose. Incontestablement, il y a quelque chose qui se mente des murs. Hein, des murs. Bon, je le dis à ma manière. Mais c'est vraiment un lieu. Et je crois que ça porte bien son nom. Hein, le sanctuaire, c'est vraiment ça. C'est un lieu où le ciel donne toujours rendez-vous. Hein. Pour ceux qui ouvrent leur cœur, je pense qu'il y a possibilité de répondre à un rendez-vous permanent que le bon Dieu permet à sa mère de donner sans cesse. Hein, donner sans cesse.
Oui, parce que Père, je pense que vous avez aussi, comme beaucoup de lieux très très chargés d'histoire, très de hauts lieux spirituels, vous avez aussi bien sûr des fidèles catholiques qui viennent se recueillir, prier, assister à la messe, mais vous avez aussi, j'imagine, des touristes qui ne sont pas nécessairement pratiquants, qui viennent aussi visiter. Vous avez beaucoup de monde, en fait.
Oui, énormément de monde. Sur le plan des catholiques. Je ne dis pas cela en cocorico, si vous voulez, qui serait déplacé. Mais je pense à, par exemple, ce monastère de moines bouddhistes qui est venu visiter en robe safran Notre-Dame-des-Dons. Si vous voulez, il y a énormément de monde, effectivement. Alors, la métropole n'étant pas paroisse, si vous voulez, étant sanctuaire, j'ai une petite équipe de laïcs que je tiens à saluer particulièrement.
Hein, j'allais vous poser la question sur l'équipe, oui.
Oui, elle fait un travail remarquable. Il y a aussi une communauté de sœurs, les sœurs de Notre-Dame de l'Incarnation, qui viennent d'Afrique et qui font de l'accueil et qui permettent justement de soigner tout spécialement, en particulier les groupes d'enfants. Vous voyez qu'ils viennent ici, elles font une petite animation. Je crois que petit à petit, elles se forment et elles contribuent justement au rayonnement de Notre-Dame-des-Dons. Hein. Mais pour, j'allais dire, le gros des visiteurs, évidemment, ce sont des touristes. Et là, à la fois, il y a un espace qui est réservé à la prière, c'est la chapelle du Saint-Sacrement, qui est toujours la plus fleurie et la plus éclairée. Alors là, c'est une volonté très forte. Il y a un témoignage de la présence, c'est le cœur de la cité, hein, le tabernacle. Donc, je veux que, même si les personnes ne partagent pas la foi catholique, qu'elles se sentent devant un mystère, là. Voilà. Pourquoi c'est si beau? Pourquoi on sent que ça va être bien tenu, que ça va être porteur d'un message? Donc il y a ça. Il y a le fait aussi d'être quelquefois un peu exigeant dans le fait de demander qu'on se découvre dans la basilique, qu'on ne mange pas de glace, enfin, bon, les choses que l'on trouve dans toutes les églises chez nous, mais singulièrement ici. Hein. Et je pense aussi, le, le fait que l'Église est bien tenue, c'est déjà un témoignage. C'est déjà un témoignage. C'est pas un lieu comme un autre. Voilà.
Merci, merci beaucoup, Père. En tout cas, vous avez également plein d'informations sur, qu'on peut trouver sur Internet pour des auditeurs, auditrices qui se passeraient dans le coin, qui souhaitent venir se recueillir, passer un moment, un séjour même chez vous. Voilà, donc il y a toutes les informations.
Hein. On a refait un site. Il est en cours de réalisation. Il y aura un grand texte justement sur l'histoire de Notre-Dame-des-Landes. En attendant que nous fassions un texte sur le patrimoine spirituel, ce que j'ai essayé bien rapidement, trop rapidement d'ailleurs, de vous dire. Mais vous sentez combien cet édifice au cœur de la cité est vraiment un témoignage, et son clocher avec Notre-Dame-des-Dons, qui a été érigé en 1859 par le sculpteur Durand, à la demande de Monseigneur de Belay, qui était un Saint-Évêque. Si vous voulez, cette église est vraiment au cœur de la cité. On la voit de tous les côtés. Hein. Elle bénit, elle indique le ciel en levant la main, hein. Elle indique son fils, hein. Et puis, de l'autre main, elle bénit tous ceux qui rentrent dans l'église. Alors, rien que ça. Et puis, elle a un très grand manteau. Il y a beaucoup de plis, si vous voulez. Et ça nous fait penser à cette image du Moyen-Âge où la Vierge est dans son manteau et tout le monde vient se réfugier. Subtum presidium confugimus.
Ah bien, en tout cas, merci. Merci beaucoup, Père Daniel Brier, pour toutes ces informations qui donneront, je l'espère, envie à ceux qui ne connaîtraient pas encore de venir vous voir. Et pour ceux qui s'intéressent à la fois sur le plan, bien sûr, de la prière et du recueillement et du spirituel, mais aussi pour ceux qui ont un intérêt pour l'histoire et le patrimoine, je crois qu'il y a tout, hein. On trouve tout.
Alors, vous êtes assuré qu'avec le nom que vous portez, que je vais aller mettre un petit papier sur l'autel de Notre-Dame de Tout-Pouvoir, et vous représentez tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, et tout le personnel.
Merci beaucoup, Père Daniel.
Je vous en prie.
Merci infiniment.
Au revoir.